Les clés de la ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.
Eh bien les amis, merci, je suis très heureux de vous retrouver après notre séance au Palais des Festivals de Cannes, où nous étions au MIPIM, d'ailleurs accompagné de mon ami Olivier Marin. Salut Olivier.
Salut Sylvain.
Comment ça va?
Bon, écoute, très bien.
Je suis très heureux d'être avec vous, mon cher Olivier, puisque nous sommes à Auxerre. Voilà. Pour les amateurs de vin, on est en pleine Bourgogne, on est au port de la Bourgogne, on est ravis d'être ici. On passe une très très belle journée parce qu'il fait extrêmement beau et nous sommes à l'abbaye de Saint-Germain, qui est devenue un musée. On vous en parlera tout à l'heure. Nous avons d'ailleurs été très généreusement et très chaleureusement accueillis par les équipes de la mairie, par l'hôte de ces lieux qui nous accueille. Il est présent sur le plateau avec le maire d'Auxerre. Bonjour Cresson Marot.
Bonjour Sylvain, bonjour Olivier. Bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Voilà, c'est notre 45e étape des clés de la ville avec notre ami Grégoire Daricot, notre super producteur. Comment il va, Grégoire?
Très bien, Sylvain. Je suis ravi d'être ici après effectivement une escapade cannoise très intéressante.
Voilà, et très intense.
Très rythmée.
Où nous avons d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer la plupart des maires de France.
Effectivement.
Qui étaient réunis pour justement promouvoir leur territoire au MIPIM. Et nous avons bien sûr à la technique Baptiste Plouchard, le super Baptiste qui s'occupe de la technique. Au moment où je vous parle, bien évidemment, cette émission est enregistrée. Vous pourrez la télécharger, bien évidemment, et nous faire part de tous vos commentaires. Olivier, au sommaire de l'émission.
Oh oui, alors tout à fait. Tout d'abord, très heureux d'être présent, bien sûr, ici au nom de Figaro Immobilier avec vous, Radio Immo. Se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir, toujours le même principe en fait dans l'émission, qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi on parle urbanisme, on parle environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme, il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour la 7e étape de cette saison 5, après Nantes, après Poitiers, après Saint-Dizier, après Besançon, après Vichy, après Bordeaux, eh bien nous sommes à Auxerre. Très heureux d'être reçu ici, à cette abbaye, par notre grand témoin. Bonjour, Cresson Marot, maire d'Auxerre.
Bonjour Olivier, bienvenue à Auxerre.
Nous aborderons avec vous l'habitat, le logement, les petits et les grands projets urbains. Et puis, comme toujours, on retrouvera nos partenaires. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevons maître Laurent Francin, notaire à Auxerre. Et avec lui, on va faire un tour d'horizon sur l'évolution des prix de l'immobilier, des ventes, et il délivrera des conseils pratiques. Et puis la séquence bien mieux, avec notre partenaire Elio, spécialiste de la rénovation énergétique, avec Pierre-Marie Perrin, qui est directeur des affaires publiques, pour aborder justement la rénovation énergétique à la grande échelle, parce qu'on a besoin de transparence, on a besoin de confiance quand on parle de DPE, quand on parle de rénovation, et puis surtout d'avoir une vision très fine, très locale sur le parc de logements à Auxerre, sans oublier bien sûr le reportage réalisé par Grégoire Daricot avec Alexandre Burkhardt qui va nous dévoiler à la fois les faces visibles mais aussi les secrets. Voilà donc pour cette nouvelle étape des clés de la ville en terre bourguignonne, terre d'histoire, de culture, de football, de vignobles réputés, symbole de la découverte d'une ville aux mille facettes. C'est un grand plaisir et comme disait le poète Jeannin de Montvalou, Auxerre où le temps s'accélère, mariant le moderne au séculaire, ville d'art et de mystère, ton charme à jamais opère.
Oh là 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 là.
Bravo.
Voilà. Mon cher Olivier, vous êtes de plus en plus lyrique. Il a une voix extraordinaire. On va la prêter sur un répondeur. Il est extraordinaire. Merci, mon cher Olivier. Cresson Marot, on vous a fait quelques images avec Alexandre Burkhardt, notre réalisateur, et Grégoire ici présent. Grégoire, vous avez fait quelques très jolies images. Vous allez nous introduire ce film, ce reportage que vous avez réalisé.
Oui, c'était une 45e étape très intéressante pour nous. Toujours intéressant de mettre en valeur ces villes avec un patrimoine et une histoire très riche. et comme tu l'as dit Olivier, des villes qui évoluent dans le temps et qui se transforment. On a essayé de mettre tout ça en valeur avec Alexandre, on est venu effectivement tourner quelques images pour parler d'Auxerre et de son rayonnement, et je vous propose de découvrir
bien sûr
les histoires.
Voilà, on retrouve dans quelques instants le reportage réalisé par Alexandre Burkhardt, animé et réalisé avec Grégoire Laricot.
C'est une ville aux racines profondes avec une histoire passionnante. Située dans l'Yonne, en Bourgogne, c'est là d'où partent ses origines romaines. Elle était déjà un carrefour stratégique, commerce, échange de marchandises, mais c'est au Moyen-Âge qu'elle va réellement s'épanouir. C'est une histoire fascinante que nous allons découvrir et moi je vous emmène la visiter.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans la capitale culturelle et touristique de la Bourgogne. Auxerre se développe donc autour d'une agglomération gallo-romaine. Sa position géographique lui permet de jouer un rôle clé dans les échanges commerciaux entre le nord et le sud de l'Empire romain.
Alors, la ville d'Auxerre a une particularité, c'est qu'on a toujours été proche de la rivière, donc tout a démarré au bord de l'eau. Cette ville possède en fait plusieurs collines, il y en a une principale, et les habitants de cette localité ont toujours eu l'habitude de vivre au pied de la colline. Et ce qui s'est passé, c'est quand les Romains sont arrivés au 3e, 4e siècle, ils ont décidé de remonter la civilisation en haut, sur le mont principal, pour pouvoir fortifier une toute petite portion en fait, et faire une petite ville qu'on appelait Otessa. Otessiodurum ou Otessiodurum.
Auxerre est rapidement un centre prospère avant que les turbulences de l'histoire n'ouvrent la voie à un autre chapitre, celui du Moyen-Âge. Ville d'art et d'histoire, Auxerre devient rapidement un lieu hautement stratégique. Dès le 6e siècle, elle est le siège d'un évêché puissant et c'est ici que Saint-Germain, évêque d'Auxerre, sera un personnage central de la propagation du christianisme en Gaule.
Auxerre a démarré un peu sa carrière de ville comme une ville commerçante grâce au fleuve. Le Moyen-Âge va un petit peu renverser la tendance parce que on va avoir l'arrivée d'un personnage assez important et même très important pour l'histoire locale, c'est Saint-Germain d'Auxerre. Et l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre va tout changer puisque Auxerre va passer d'une ville commerçante à une ville religieuse, des abbayes fermées, des abbayes ouvertes, et également une très belle cathédrale avec un évêché. Et l'abbaye de Saint-Germain va être une très grosse impulsion, va mettre en valeur la ville d'Auxerre qui va devenir un centre culturel puisque l'abbaye va accueillir une école qu'on appelle l'école carolingienne de Saint-Germain d'Auxerre où les plus éminents intellectuels vont se réunir. Et on va être connu après pour notre abbaye, pour notre église et pour nos pèlerinages puisque Saint-Jacques de Compostelle passe par Auxerre.
Son cœur médiéval, ses rues pavées et ses maisons en colombage nous racontent encore aujourd'hui l'histoire de ses ancêtres.
Alors, ne vexez pas un Auxerrois, hein, on dit pas colombage, on dit pan de bois chez nous. C'est une appellation qui va varier selon les régions. Nous, on préfère pan de bois, puisque un pan de bois est plus grand. Il est souvent en tripartition et il est composé de beaucoup de charpentes différentes. Et c'est une de nos fiertés, on en a plus de 500 dans le petit centre-ville d'Auxerre. C'est une belle beauté que de se promener dans les rues d'Auxerre et d'apercevoir toutes ces maisons qui nous ramènent directement au Moyen-Âge.
La Renaissance marque ensuite un tournant important dans l'histoire d'Auxerre. Durant cette période, la ville connaît un véritable renouveau culturel et artistique. Sa prospérité, grâce au commerce et son rôle central en Bourgogne, attire les artisans, les architectes et les artistes.
C'est qu'il ne faut pas oublier que la Bourgogne reste libre et indépendante jusqu'au 15e. Et en fait, au 15e siècle, alors les dates des fois sont bouleversées, mais 1478 est souvent mentionné, les Bourguignons deviennent du coup rattachés, ils deviennent français. Est-ce que les Burgonds deviennent francs? Non, mais en revanche, nous on est rattachés. Et donc on va avoir des périodes de troubles, on va avoir des guerres entre les Bourguignons et les Franciliens qu'on appelle aujourd'hui. Et donc les seigneurs de Bourgogne, rattachés bien sûr au duc de Bourgogne de Dijon, vont se servir de villes comme Auxerre pour montrer qu'on a une très belle culture, qu'on a du vin et qu'on sait faire des belles choses. Les visiteurs sont surpris de la richesse de l'histoire d'Auxerre parce que c'est une petite ville mais qui a en fait vécu beaucoup. Auxerre est une ville qui n'est absolument pas isolée. On est dans une très belle agglomération de 29 villages et on est dans une région viticole. Alors là, on va pas le cacher, il y a Chablis qui n'est pas très loin, mais nous avons nos Auxerrois qui sont des vignerons formidables et passionnés. Mais autour d'Auxerre, il y a déjà une émulation et on a un territoire entre la vigne et l'eau.
Aujourd'hui, Auxerre est une ville qui a su garder son âme entre patrimoine historique et modernité. Elle reste un lieu de culture, d'histoire et de secrets. Son ambassadeur principal est alors le club de football de l'AJ Auxerre qui propulse la ville sur le devant de la scène nationale. Auxerre devient synonyme de succès sportif avec des joueurs emblématiques comme Laurent Blanc ou Djibril Cissé et surtout un coach mythique, l'homme au bonnet, Guy Roux. Un patrimoine vivant qui continue de fasciner et une ville qui sait séduire en offrant à ses visiteurs un voyage à travers les âges. Auxerre, une ville aux mille visages, un passé vibrant, un avenir à découvrir.
C'est la fin de ce périple, enfin ce court périple. Ici, au bord de l'Yonne, une grande artisane de la splendeur de la ville. Les hostilités sont lancées. Sylvain et Olivier, c'est à vous. Et moi, je vous souhaite une très belle émission.
Vous êtes régalé, mon cher Grégoire.
C'était pas mal, hein.
Je trouvais ça bucolique, avec un peu de nostalgie, très beau.
On
magnifique.
A été assez inspiré par ces lieux, je dois dire. La ville est magnifique, une petite ville, mais à l'histoire riche, je retiens de ça. Et voilà, et avec Alexandre, ça nous tenait à cœur de mettre en valeur tout ce patrimoine, cette histoire, et ses ambassadeurs les plus
bien
illustres.
Sûr. On a reconnu. Qu'on ait aussi une pensée pour le président Bourgoin qui a. Nous a quitté il y a très peu de temps, qui fut un très grand président de club, voilà, qu'on appelait l'empereur du poulet, qui était un self-made man, un homme absolument formidable, haut en couleur. Voilà, une pensée pour ses proches et pour tous ceux qui l'apprécient. Monsieur le maire, quelques mots sur les images que vous venez de voir.
C'est presque émouvant, parce que c'est vrai qu'on est tellement pris par les dossiers qu'on n'a peut-être pas l'occasion de se poser. Et puis de contempler un petit peu ce qui fait la spécificité d'une ville comme Auxerre. Donc ça fait du bien d'être conscient du potentiel qu'a cette ville et donc de ses atouts. Parce que souvent on a tendance à envier ce qu'il y a ailleurs et on oublie parfois ce que l'on a déjà sur place. Et quand on fait un petit peu le tour de tout ce que l'on a, on peut estimer qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de chance.
Vous avez une ville, nous on a l'habitude de bouger un peu partout en France. Et moi, dans une autre vie, j'ai été compagnon du devoir. Donc, j'allais de ville en ville. Et c'est vrai que ce côté très territoire, très terroir, que j'ai pu découvrir à la fois il y a une quarantaine d'années dans mon apprentissage et récemment dans nos activités médias, c'est le formidable talent, vous savez, qu'on voit dans les territoires, qui est presque schizophrénant avec la réalité qu'on vit à Paris. Avec ce qu'on, quand on regarde les journaux, quand on écoute la radio, c'est triste, c'est pas positif, c'est parfois même assez délétère. Et c'est vrai que quand on va dans vos villes, on ressent, hein, Grégoire, je crois que tu l'as
vu. Une énergie.
On ressent une énergie différente. Ouais. Un vrai attachement au territoire. D'ailleurs, quand on voit, par exemple, ne serait-ce qu'en termes d'audience, vous savez, le niveau de consommation de l'information locale, c'est plus de 50% des personnes qui vivent dans le territoire qui consomment l'information locale, ce qui démontre l'attachement de vos administrés à leur ville. Christian Marot.
Alors souvent, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. C'est un peu le problème de ces petites villes, c'est que on a tendance un peu à s'endormir. Donc peut-être pas rêver beaucoup, mais nous, on vit peut-être pas assez. Donc faut aussi qu'on arrive à concilier. Je pense que c'est un des enjeux d'une ville comme Auxerre, c'est concilier cette authenticité, cette histoire, mais ne pas occulter aussi l'avenir, l'innovation, l'évolution. Et donc un des enjeux, c'est de concilier les deux dans un territoire comme le nôtre, sans perdre cette authenticité. Et j'avoue que là, ça commence à être un petit peu compliqué, parce que je sais qu'on va parler de transition écologique, d'efficacité énergétique, et dans un patrimoine historique comme le nôtre, c'est un vrai défi. Et c'est ce qu'on essaye de relever au quotidien. Et croyez-moi que dans le contexte financier actuel, c'est presque un exploit.
Justement, on va entrer dans le débat parce que effectivement, on va parler vrai sur les programmations. Je voudrais que tout de suite on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le renouvellement urbain. Je prends le quartier des Rosoirs, quartier Sainte-Geneviève. De très nombreux projets de renouvellement urbain sont lancés dans la ville d'Auxerre. Vous êtes entré aux affaires en 2020, c'est votre premier mandat de maire. Moi, j'ai envie de vous poser...
À Auxerre.
Pardon ?
Premier mandat de maire à Auxerre.
Oui, à Auxerre, pardon. Voilà. Oui, vous avez raison de le préciser.
Ce qui est important, parce que ça permet déjà
oui,
de...
Oui, oui, oui. Voilà. Non, mais vous avez raison. Merci de m'avoir rectifié. Ça fait plaisir à entendre.
Et j'ai dit Auxerre, Olivier.
J'ai envie de vous demander quelles sont vos priorités et le déroulé de votre programme dans les années à venir, compte tenu, effectivement, de ces injonctions sur le renouvellement urbain. Vous l'avez déjà, d'ailleurs, indiqué. Comment, justement, faire... se joindre parfois des injonctions qui sont souvent contradictoires.
Alors c'est pas contradictoire, en tout cas sur le renouvellement urbain, c'est tout le problème du phasage de ces grandes opérations. Donc le renouvellement urbain, ça commence à dater quand même, c'est la loi SRU, donc ça a une vingtaine d'années, et malheureusement on est dans une période où on parle de loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, alors que le renouvellement urbain, c'était tout le contraire. C'est on démolit le vertical et on reconstruit à l'horizontale. Et on arrive sur des opérations aujourd'hui qui vont être contradictoires avec l'esprit du ZAN. C'est-à-dire qu'on va démolir du vertical et on va pas pouvoir reconstruire l'horizontale. Et c'est là que ça commence à être compliqué, puisque on est engagé dans des opérations. Donc on a deux quartiers prioritaires, politiques de la ville, donc vous l'avez cité, Sainte-Geneviève et les Rosoirs, donc qui sont concernés par des opérations de renouvellement urbain. Donc il va falloir que, malgré cette injonction qui est la loi ZAN, zéro artificialisation nette, même si le Sénat encore, je crois, hier, d'un avis contraire à celui du gouvernement, essaye d'assouplir cette loi ZAN, nous, on va devoir démolir du vertical et essayer de reloger ces gens-là dans une autre forme d'habitat. Et donc, c'est là qu'il va y avoir l'enjeu du recyclage des bâtiments, du reconditionnement, de la réhabilitation, puisqu'on n'aura pas toujours l'occasion de pouvoir construire. Donc il va falloir soit reconstruire ou soit réhabiliter des bâtiments qui, pour certains, sont dans des états assez critiques, donc qui vont demander des niveaux d'investissement très lourds. Donc déjà l'ANRU, on est sur une opération globale qui est de l'ordre de 140 millions d'euros, donc juste dans le périmètre ANRU. Et donc dès qu'il va falloir sortir du périmètre ANRU, on va être obligé encore de mettre plusieurs dizaines de millions d'ANRU, de millions d'euros. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé sur une entreprise sociale de l'habitat, parce que ça demande un tel niveau d'investissement qu'avec nos outils locaux, on n'est plus en capacité de faire face. Donc là, on est en train de travailler sur ce projet-là avec un partenaire. Et donc je crois que vous avez été à Saint-Dizier. Donc mon ami Quentin essaye aussi de faire le lien avec les grandes métropoles.
Bien sûr.
Et donc il a pris une initiative avec une ville de banlieue parisienne.
Avec Aubervilliers.
Et c'était très très pertinent. Ben nous, c'est un petit peu différent, c'est qu'on a des opérateurs à Paris qui ont ces savoir-faire, qui ont ces capacités. Donc l'idée, c'est de créer un partenariat dans de nouvelles structures qui va nous permettre d'injecter 300 millions d'euros sur 10 ans dans le logement social à l'échelle de l'agglomération et de pouvoir remplir ce défi de dire « je démolis le vertical et j'arrive malgré tout à reloger toutes ces populations sans trop consommer d'espace naturel ».
On peut pas être plus clair.
Ouais. Et on va le voir justement dans ce prolongement, Auxerre attire aussi. Il y a eu un déclin démographique pendant longtemps. Et puis là, on dirait que ça repart. Ça y est, en tout cas une bonne nouvelle. Ça monte. On est autour de 35 000 habitants. Je crois que c'est 42 000 à l'échelle de l'aire urbaine. Donc votre ville aussi se réinvente pour accueillir mieux ces nouveaux habitants. Et pour les accueillir, il faut évidemment penser aux générations futures. Et dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, Il y a une cité scolaire qui est en projet dans le quartier Sainte-Geneviève, justement. C'est un projet qui est à hauteur, je crois, autour de 15 millions d'euros, pour laquelle vous organisez avec la ville un concours pour désigner le futur maître d'œuvre. Donc les candidats ont jusqu'à la fin du mois. Et donc il est question d'une école maternelle, d'une école élémentaire, d'un restaurant scolaire, d'un centre de loisirs, d'un espace de lecture, d'un centre médico-scolaire. C'est assez important quand même. Et un début de chantier qui est prévu, je crois, en septembre 2026. D'abord, pourquoi un concours? Et puis, dans le cadre aussi, quand on le voit à l'échelle de Lyon, il y a des classes qui ferment parce qu'il y a aussi de moins en moins de monde. Comment expliquer cette contradiction? Et peut-être un mot sur le concours.
Alors, déjà sur le concours, l'ambition d'un programme en rue, et c'est Jean-Louis Borloo hein, qui a vraiment travaillé sur ce dossier-là à Valenciennes. On avait créé une espèce de ghettoisation de ces quartiers. Donc la population était pauvre, le quartier était moche et ils avaient accès à rien. Donc c'était de se dire ben, comment on permet à ces gens-là de redevenir fiers de l'endroit où ils habitent. Et donc il y avait la requalification des espaces publics, la requalification des logements, et également, donc on voit bien que dans les opérations rues, la requalification des équipements publics. Et donc c'est ce qu'on a voulu à travers l'école. Donc c'est l'intérêt d'un concours d'architecte, c'est de choisir une signature architecturale, un style. Moi, je suis pas architecte, donc et en plus je suis nul en dessin, donc je me réfère aux gens qui sont les hommes de l'art, les professionnels, et c'est un peu ça qu'on va choisir. Donc, on a défini un cahier des charges technique. Ça, on a l'habitude de le faire. Donc, ça, c'est l'architecte qui va dire, il faut tant de classes, il faut tant de superficie. Par contre, ce qu'on attend de lui aussi, c'est qu'il s'imprègne un petit peu du projet dans sa globalité et qu'il donne un peu sa touche architecturale pour que cette école, elle sorte un peu du lot et elle rende fiers les écoliers quand ils iront dans leur école en disant, c'est l'école de Sainte-Geneviève. On lui donnera certainement un nom. Donc, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on a à travers ce concours d'architecte. On n'est pas la première collectivité à le faire, on ne sera pas la dernière. C'est ce qu'on recherche aussi, c'est à mettre un peu de lumière sur des projets qui souvent sont réduits uniquement sous le spectre éducatif.
D'accord. Alors, justement...
Je voudrais quand même répondre, oui. Parce qu'il y avait une deuxième question d'Olivier.
Oui.
Et qui me tient à cœur.
Oui.
Il y avait la question de la démographie. Et donc, il y avait la démographie...
Il semble repartir à la
...du territoire. Donc ça... Ça faisait 15 ans que l'Auxerre était en déclin démographique. L'Auxerrois, le centre Yonne était en déclin démographique parce qu'au départ, on a pu laisser croire que les gens d'Auxerre partaient en périphérie. Et, non, quand on analyse, c'est le centre Yonne qui perdait des habitants depuis 15 ans. Et je ne partage absolument pas l'analyse de Jérôme Fourquet qui parle de la fameuse diagonale du vide. Donc j'appelle ça le fatalisme. Et moi, je suis contre le fatalisme. À partir du moment où on veut prendre des responsabilités, c'est qu'on a des idées et qu'on va les mettre en œuvre. Et donc je dis ça, c'est pas le fait du hasard, c'est pas une formule mathématique ou une corrélation entre des chiffres. Bien au contraire, c'est un fatalisme. On lutte contre le fatalisme et on essaye de trouver les clés pour justement redynamiser ce territoire. Et on les a trouvées. En tout cas, on a travaillé sur l'attractivité du territoire. Un pôle de cité éducative, c'est un outil d'attractivité. En tout cas, nous, on en est convaincus. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, sur les écoles, les crèches, les périscolaires, on a un plan pluriannuel d'investissement de 40 millions d'euros. Donc, ça s'est jamais fait. Une école de 15 millions d'euros à Auxerre, je pense qu'il n'y en a pas eu depuis 20 ans. Donc, on est vraiment dans ce renouveau. Et sur la partie, des élèves, bien, faut être pragmatique. Dans la démographie, européenne, il y a un vieillissement de la population, donc on sait que de toute façon, il y a de moins en moins de jeunes, donc il y a de moins en moins d'élèves. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à gérer un nombre important d'écoles, qui pour la plupart sont dans un état plutôt inquiétant, avec des équipes pédagogiques réduites? Ou est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on essaye de rationaliser, de regrouper, pour qu'à un coût équivalent, on ait une offre de service, une offre éducative supérieure. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Donc, on va peut-être un peu plus loin que nos prérogatives, parce que ça permet de sauver des postes de directeurs. Ça permet à ces mêmes directeurs ou directrices, attention, faut que je fasse gaffe, d'avoir des décharges pour mieux assumer leur mission, parce que la décharge est liée au nombre de classes. Donc, on voit bien que si on fait pas attention, c'est toute la structure éducative d'un territoire qui peut se déliter. En tout cas, nous, on est convaincus que c'est une des solutions pour contribuer à la fois à la réussite éducative qui est inscrite aussi dans les opérations en rue, mais également à l'attractivité du territoire sur le spectre éducatif.
À quoi vous attribuez ce fatalisme dont on parle ? Si on devait en déterminer les causes, apparemment vous êtes plutôt dans la proaction, c'est-à-dire que vous êtes dans la...
Dans l'anticipation.
Dans l'ambition, comme vous voulez.
Oui, c'est plutôt l'anticipation.
Je suis d'accord.
Oui.
À quoi on attribue effectivement ce qu'on a pu appeler un déclin démographique qui fait que parfois certains observateurs pensent que voilà tombent dans une espèce de fatalisme, ce qui est pas votre cas apparemment.
C'est ce que j'ai appelé, donc c'est le fatalisme des, on a appelé ça les villes médianes, les villes moyennes, oui. Les petites villes, oui. Les villes intermédiaires. Il y a une élue, je crois que c'est Avignon, qui elle a employé un terme que j'apprécie beaucoup, c'est des villes à taille humaine. Et je pense qu'avec ce qu'on a vécu, ce qui était une faiblesse devient aujourd'hui une force en stratégie. Et ce fatalisme de ces petites villes ou de ces villes moyennes, je pense qu'elle a été, elle s'est développée avec l'hypermétropolisation. Donc on revient au débat de tout à l'heure de l'État jacobin, qui pour des raisons... de représentation politique, a permis des choses à certains territoires, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les métropoles. Donc cette nouvelle structure territoriale qui devrait contribuer à la simplification de ce fameux millefeuille, ben non, on a rajouté une couche qui s'appelle la métropole. Et on a quelque part créé une forme de concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'à ces territoires... on leur a donné quasiment tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de la ville, le pouvoir de l'intercommunalité, le pouvoir du département et le pouvoir de la région. Moi, dans mes projets, je dois négocier avec le département, je dois négocier avec la région et je dois négocier avec l'État. Dans les métropoles, on est presque dans certains cas, ils ont même plus besoin de l'État. Et donc ça a contribué aussi à cette forme de fracture territoriale qu'on retrouve, hein. C'est-à-dire quand on parle du rural, les villes moyennes, on les considère comme des milieux ruraux, et ça a accentué la fracture territoriale, puisque le citoyen a bien vu que dans une métropole, il avait accès, ou tout du moins, il avait une assurance d'avoir accès à certains services ou dans un certain délai, alors que dans d'autres territoires, ça paraissait impossible. Et d'ailleurs, c'était parfois irréalisable. Même si le politique voulait, il était dans l'incapacité de le faire. Et ça, c'est très grave. Et dans une période où, justement, il y a cette fracture territoriale très forte qui commence à se ressentir dans les urnes, et même parfois dans l'ambition de vouloir porter des responsabilités politiques, parce que dans les métropoles, pas trop d'inquiétude, il y aura toujours des candidats. Moi, je suis pas inquiet. Dans la ruralité, ça va être de plus en plus compliqué. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on soit très vigilant, parce que c'est peut-être ça qui a découragé ou qui a amené ce fatalisme pour les élus locaux et leur population, en se disant, de toute façon, c'est plus pour nous.
Vous ne croyez pas si bien dire, puisque juste sur la dernière mandature, on a pratiquement 37% des maires qui ont jeté l'éponge dans ces villes qu'on appelle à tort moyennes, médianes ou autres, etc. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, souvent, on en parle avec Pierre-Marie, qui connaît très bien les élus locaux, sur, effectivement, ce côté presque sacerdotal d'engagement de certains maires, avec une vraie inégalité de traitement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Même sur des sujets dont on parle pas parce qu'ils sont supposés être tabous, par exemple, l'indemnité des maires, tout simplement, dont on parle quand on voit comment, par exemple, les parlementaires, ne serait-ce que de ce point de là sont indemnisés. Il y a un sujet très important, qui est celui de la transition écologique auquel tout le monde souscrit. Il n'y a pas de débat, on est tous pour la planète, on
le
voit bien.
Je ne pense pas. Certains potentiels candidats à l'élection présidentielle disent que peut-être qu'ils mettront de côté les enjeux de transition écologique.
Oui, mais vous savez, je vais vous dire, il suffit simplement d'aller dans le Bordelais, par exemple, dans l'Entre-deux-Mers, où je vais souvent chaque année, ou même dans votre territoire, pour s'apercevoir de l'impact climatique. Mais... cette transition, elle est aussi un axe stratégique majeur hein, pour les villes. Les enjeux, comme je vous l'ai dit, sont très importants. On favorise aujourd'hui aussi également le développement économique, parce que ça pénètre également toute une génération d'entreprises, de nouveaux métiers. C'est un peu une vision presque schumpeterienne, si vous voulez, de la ville, où quelque part, on est sur une forme de, j'irais pas dire de destruction créative, mais quelque part, des nouveaux métiers autour du climat qui sont importants. Je sais que c'est un axe que vous développez, Alors moi, j'ai envie de vous écouter. Ça serait quoi, de votre point de vue, Christian Marot, votre stratégie pour votre ville?
C'est pas une heure qu'il nous faut, là. C'est un après-midi. Hein.
Oh, on peut rester une semaine.
Non, je présente.
Dans le cas du Chablis, on va rester.
On fera en sorte d'avoir des remontants. D'abord, c'est pas un axe. Parce que dans l'Auxerrois, dès 2020, on s'est réunis avec les maires. On a dit, c'est plus possible de penser l'avenir d'un territoire à l'échelle communale. Il y a une telle interaction entre les habitants de chaque commune que ce serait incohérent, inefficace, parce qu'on parle beaucoup de l'efficacité de la dépense publique, de penser des politiques publiques à l'échelle communale. Donc on a dit, on fait un seul projet de territoire pour l'agglomération. Il n'y a pas le projet de la ville d'Auxerre, il n'y a pas le projet de l'agglomération, il y a le projet des Auxerrois. Et on a essayé aussi d'avoir une attitude entrepreneuriale, donc une attitude stratégique. Et dans cette stratégie, on s'est dit, mais c'est quoi les forces de l'Auxerrois? Donc, ok, c'est rural, c'est authentique, c'est à taille humaine, bon, pas de révolution, mais par rapport à l'évolution du contexte, quels seraient les atouts, les opportunités de ce territoire par rapport aux autres? Et très vite, on s'est aperçu que ce côté un peu rural, cadre de vie, il y avait des opportunités. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on arrête de penser la transition écologique comme une contrainte. Il faut vraiment la considérer comme une opportunité. Et on ne l'a pas mis dans un axe, on l'a mis de façon transversale. On s'est dit, dans l'Auxerrois, toutes les politiques publiques, tous les projets, on intégrera la transition écologique dès le début comme une opportunité. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est nos limites, excusez-moi l'expression, mais ce n'est que bénéfique. Dans tous les dossiers, on est en train de se rendre compte, si on prend sous ce spectre d'opportunité la transition écologique, c'est hyper positif pour le territoire. Donc ça peut être positif les agents, parce qu'ils vont travailler dans de meilleures conditions. Ça peut être positif pour le climat, parce qu'on va décarboner. Ça peut être positif pour le citoyen, parce qu'on va lui améliorer son pouvoir d'achat. Ça peut être aussi, et c'est ce que je disais encore à midi, aux nouveaux agents de la collectivité qu'on accueille tous ensemble dans un petit moment festif. Je leur disais, c'est aussi un facteur en termes de marketing territorial, en disant, voyez, pour lutter contre ce fatalisme des petites villes, même dans une ville comme Auxerre, on est capable de rendre possible la transition écologique et de la faire, même si ça paraît compliqué. On sait que c'est de l'innovation, on sait que c'est des expérimentations, on sait que c'est des risques. Et alors c'est pas le Figaro, donc je vais pas le citer, mais il y a encore non, je ne me permettrai pas. Ce serait. Mais je pense que vous avez aussi une sensibilité à l'économie qui est nécessaire aujourd'hui, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Il y a un journal, un hebdomadaire, il y a deux semaines, qui reprenait un peu en synthèse le rapport Draghi de la Commission européenne, justement sur cette transition écologique. Alors de façon très synthétique, parce que moi j'aurais jamais eu le courage de le lire en complet, donc j'en avais des bribes, mais sa synthèse, et en fait c'est ce qu'il disait en disant, on sait que c'est nécessaire cette transition écologique, parce qu'il y a un dérèglement climatique, avec parfois des conséquences géopolitiques, parce que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a peut-être le dérèglement climatique est un des facteurs. C'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, il y contribue. Et ce qu'il dit, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, il faut qu'on intègre ça comme une opportunité, même si dans un premier temps, ça peut nuire à la compétitivité des entreprises. Mais sur le long terme, et moi je le partage à 100%, et je pense que le président de la République aussi le partage à 100%, sur le long terme, je pense que ce sera une vraie force pour l'Europe d'avoir cette ambition de rendre compatible la transition écologique avec le développement économique. Et je lutte aujourd'hui contre ceux qui prônent la décroissance en disant la solution c'est la décroissance. Aujourd'hui on parle beaucoup et on va en parler dans le bâtiment, on va parler de sobriété économique, c'est de se dire, et c'est une des définitions de l'efficience, c'est de se dire on peut continuer à créer de la valeur, donc aller dans le sens du progrès, ce qui est quand même positif le progrès, parce que tous ceux qui nous parlent de décroissance, ils ont tous un iPhone et ils se soucient pas d'où sont stockées les données. Donc c'est de dire cette croissance, elle se faire de façon sobre, c'est-à-dire sans trop puiser sur nos ressources naturelles qui se raréfient face à la démographie, qui deviennent stratégiques, parce qu'on parle au niveau de l'Europe de la souveraineté sur les matières stratégiques. On voit bien que ça peut tendre certaines relations diplomatiques. Et donc c'est ça, c'est de se dire En fin de compte, la transition écologique, c'est de se dire comment je peux faire du développement économique avec une certaine sobriété, tout en acceptant que ça puisse devenir un argument concurrentiel. Et c'est cette stratégie qu'on applique à un territoire comme le nôtre, à une collectivité territoriale, même si sa vocation n'est pas de créer de la valeur économique, mais plutôt de créer de la valeur sociale.
Alors justement, la transition écologique, puisqu'on le retrouve un peu partout et aussi dans la vie quotidienne, c'est aussi l'écoute, c'est l'échange avec les habitants. En prolongement de l'enquête participative habitée au Serre en 2050, vous avez installé des débats publics hein, qui marquent le début des ateliers de concertation citoyenne. Il y a, je crois, 6 thématiques majeures. Exemplarité environnementale, services et commerces, emploi et tourisme, il y a aussi le bâti, l'urbanisme, équipement et loisirs, mobilité durable, et puis l'avenir des silos du Batardeau, vous en direz un mot parce que c'est un vrai symbole. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces ateliers de concertation? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui se dégagent? Est-ce qu'il y a un cap?
Alors, je vais être cash. J'aime pas le terme démocratie participative. C'est rajouter de la démocratie sur de la démocratie qui finit par délégitimer la démocratie. Et c'est limite l'anarchie. Donc moi, je crois plus à la démocratie de proximité. Parce qu'en fin de compte, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est cet éloignement du citoyen de ses représentants, ce qu'on appelle l'abstention. Donc au contraire, c'est comment on recrée ce lien entre l'élu et le citoyen. Parce que je pense que la meilleure façon de fonctionner dans un territoire, dans une nation, c'est la démocratie. En tout cas, sur le long terme, je vois pas d'autres modèles. C'est ceux qui me sécurisent le plus. Et moi, je préfère vivre dans une démocratie, même si elle a des dysfonctionnements de temps en temps. En tout cas, pas tout le temps.
Pas mieux pour l'instant. Ouais, d'accord.
Bon, sans faire référence à une activité récente. Donc, je crois plus à la démocratie de proximité. Et là, clairement, c'est le rôle de l'élu. Et donc, c'est pour ça qu'on se... Dans le contexte, on s'oblige. D'ailleurs, ça devient, tout à l'heure, vous avez dit, il y a de moins en moins d'élus. Être élu local aujourd'hui, c'est sportif. C'est pas, on peut pas dire que ce soit un grand moment de plaisir, 365 jours par an. Donc c'est souvent, il y a une forme de parce que justement, le contraire de combattre, c'est débattre, il y a une forme de débat. Et il faut entretenir et accepter ce débat. Et donc, c'est ce qu'on cherche dans cette démocratie de proximité. Donc, c'est d'aller expliquer, parce que souvent, quand on est sur l'innovation, quand on est sur l'anticipation, il y a une forme d'incompréhension. Et donc là, on doit sensibiliser, on doit expliquer. Et clairement, moi, je suis agréablement surpris. C'est-à-dire que quand on prend le temps de parler de la raréfaction des ressources et de la souveraineté sur ces ressources, et qu'on explique que nous, localement, on a une stratégie sur la valorisation et la collecte des déchets en lien avec ces enjeux qui nous concernent pas encore dans l'immédiat, mais qui, à terme, vont nous concerner, il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent et qui se disent « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Tout compte fait, ça a du sens, ce que vous êtes en train de faire. » Eh bien, sur des projets d'aménagement, ben c'est la même chose. C'est de dire, de laisser croire qu'aujourd'hui, l'aménagement d'une ville, c'est celui qu'on a connu ou c'est celui qu'on vit au quotidien, c'est mentir aux gens. C'est de leur dire, ben voilà, il y a eu une période où on pouvait faire ces choses-là, et il va y en avoir une autre, on va pas pouvoir le faire. Et c'est plutôt d'aller leur expliquer, et une fois qu'on a bien contextualisé, oui, ensuite, on va leur donner l'occasion de s'approprier les projets. Donc là, et on va travailler avec eux pour que, dans un périmètre où il y a une certaine latitude de décision, parce qu'on a tellement de contraintes, je prends l'exemple des agriculteurs sur les lois pour tailler les haies, vous m'expliquerez comment vous allez laisser choisir les gens pour le type de haie ou le type de taille. Donc c'est la même chose. Et donc il faut contextualiser, essayer de cadrer un peu la faisabilité du projet pour ensuite, bien sûr, laisser les gens s'approprier. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc dans les opérations en rue, c'est des conseils citoyens. Donc le terme me plaît évidemment beaucoup. Et puis sur une opération comme Batardeau-Montardouin, c'est la même chose. Donc on l'a fait dans le cadre d'une réunion publique qui s'est ensuite poursuivi dans le cadre d'ateliers thématiques. Donc on est rentré un peu dans la technique. Et là, on a pu faire déjà une première phase de sensibilisation et d'explication pour ensuite passer sur la phase un peu proximité, consultation, concertation, pour que déjà avoir un peu les prérequis, un peu le cadre pour être plus pertinent dans les propositions qu'on va faire.
Mais pour l'instant, l'échange est à la hauteur de vos attentes?
Moi, je suis plutôt agréablement surpris, parce que c'est le général de Gaulle qui disait que les Français ne sont pas des veaux, mais c'est ça. Quand on prend le temps d'expliquer, alors je dis pas que c'est facile, hein, de vulgariser des contradictions de certaines lois, de vulgariser des obligations dont personne n'a entendu parler. Mais je pense que le bon sens, il est quand même là. C'est-à-dire, quand on voit les difficultés dans lesquelles sont aujourd'hui les Français, ben ils arrivent quand même, alors j'aime pas le terme résilience, mais il y a une certaine agilité pour faire face à toutes ces contraintes. Donc moi, je leur fais confiance, et à partir du moment où je leur fais confiance, ben je pense que ça marche.
Alors le combat, qui est un combat national, qui est même un fléau, pour plusieurs raisons, bien évidemment, avec Olivier, on connaît bien le sujet, on est très impliqué dans le monde associatif. Le mal logement touche toutes les strates de la population, avec raréfaction du foncier, crise majeure dans l'industrie de la construction et du logement neuf. Le marché s'est carrément rétréci de moitié. Nous étions la semaine dernière d'ailleurs avec Olivier au MIPIM où j'ai eu l'occasion d'interviewer la ministre du Logement. C'est une catastrophe annoncée. C'est 2,5 millions de familles qui sont en attente d'un logement social. C'est 4,5 millions de Français mal logés ou en situation de mal logement et de précarité énergétique. Vous êtes très sensible au logement social puisque vous avez lancé un programme ambitieux de dynamisation de l'habitat social à Auxerre. Vous allez rénover 1000 logements existants qui sont considérés comme des passoires thermiques F et G. C'est très important parce que, de mémoire, vous êtes l'une des collectivités locales les plus offensives de ce point de vue-là. Et vous allez pas vous limiter à ça, puisque vous allez construire 800 autres logements, avec notamment un sujet très important, et d'ailleurs on lance avec Coabilis et la Fondation de France une campagne sur l'habitat intergénérationnel.
Ouais.
Qui est une vraie solution alternative aussi à l'habitat, qui est destinée à la fois à l'accueil des étudiants et aussi des seniors. Mais en matière d'habitat, monsieur le maire, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter et de devenir propriétaire. Il y a ceux qui passent nécessairement par la case location. Alors là, bingo, le marché locatif privé, je pense juste le marché locatif privé, c'est 49% d'annonces en moins. Encore faut-il déjà essayer de trouver un logement. Alors je vous raconte pas, quand on est étudiant et qu'on arrive dans une ville qu'on connaît pas pour faire des études, on dort carrément dans sa voiture. D'ailleurs, il y a presque plus d'aide à la voiture électrique qu'il y a au logement pour les étudiants. Donc résultat, on dort dans sa voiture électrique. Au début de sa vie active, souvent, on a le même sujet que pour les retraités qui n'ont plus les moyens, à cause du revenu de remplacement pour la retraite, de se loger correctement. Plus dur de se trouver un logement, location nue, location meublée, à Auxerre, comme à Paris, à Lyon, Nice, vous n'échappez pas les règles. Avec Olivier, on a noté le nombre de logements
qui étaient en vente. Moi, je regardais sur Figaro Immobilier, mais c'est un peu le cas dans quand même pas mal de villes. Typiquement, les biens à la vente à Auxerre, hein, sur Figaro Immobilier, 247 biens à la vente, on fait location à Auxerre, 50 annonces sur Figaro Immobilier. Alors, j'ai regardé sur Se Loger. Bien la vente à Auxerre, 237. Bien la location, 52. Et quand on va sur les plateformes type Airbnb, alors là, on voit une prolifération, justement, pour
les séjours à Auxerre.
On tombe sur une centaine d'annonces, des petits studios, des appartements, on passe encore des maisons. Est-ce que vous avez senti ce phénomène? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a certains élus, certains maires qui veulent lutter contre la...
Saint-Malo a interdit les Airbnb. Certaines villes compensent énormément. On était avec la maire d'Aix-en-Provence qui a fait le même sujet. On va être à Biarritz bientôt avec le même sujet. Alors, le point de vue du maire d'Auxerre, c'est un fléau.
Il y en a qui sont amnésiques. Parce que, soyons honnêtes, la réhabilitation dans des centres historiques, ça coûte une fortune. Je pense qu'on peut être parfois sur des 5 à 6 000 euros du mètre carré, si on refait bien les choses. Et je pense qu'à une époque, les maires étaient bien contents qu'il y ait des porteurs de projets privés qui réhabilitent des logements souvent vacants et insalubres en Airbnb. Moi, j'en suis convaincu. Après, ce qu'il fallait, c'est peut-être suivre cette évolution de réhabilitation orientée plutôt sur de la location type meublé ou touristique, et s'assurer qu'on reste dans une proportion acceptable. Donc, pour ce qui est d'Auxerre, on est dans cette proportion acceptable. Et mais je n'attends pas que ce soit le Airbnb qui réhabilite le centre-ville d'Auxerre. Je pense qu'il y a des villes, c'est ce qu'ils ont laissé faire, en disant « ça me coûte rien, il y a des gens qui portent des projets, c'est pas mal, on va laisser faire. Non, donc c'est de trouver, d'essayer de concilier, donc de profiter de cet élan de réhabilitation, parce que il y a eu des effets d'aubaine. Hein, en plus, on a subventionné ces réhabilitations souvent,
mais il y avait un peu,
avec des incitations fiscales qui sont en train d'être vues.
La loi Lemeur bien équilibrée. Et puis, je voudrais juste pondérer ce que vous dites parce que c'est important ce que vous dites. Ça, c'est pas neutre. On ne critique pas le Airbnb. On ne critique pas l'utilisation du meublé saisonnier. C'est juste la proportion. Je vais vous donner juste un chiffre. 100 000, il y a seulement 15 ans. Aujourd'hui, on est pratiquement à 1 million.
Mais...
C'est-à-dire que le problème, monsieur le maire, c'est l'équilibre. C'est pas de stigmatiser.
Je suis pas en train
les porteurs de projet.
C'est
pas le but. Hein.
C'est trop facile de dire c'est la faute des autres. À un moment donné, s'il y a quelque chose qui fonctionne, c'est que ça répond à un besoin. Donc ça veut dire que ce besoin, ceux qui devraient le combler, ne le comblent pas. Parce que c'est ça, le sujet.
C'est qui, il ?
Souvent, les pouvoirs publics.
La collectivité locale, aussi le devoir de loger ses administrés, et que l'équilibre n'a pas été respecté. Je suis d'accord avec vous, la proportion est devenue trop importante, à tel point que la législation, pardonnez-moi, a renforcé le dispositif pour essayer de l'endiguer, pas pour essayer de l'arrêter.
Alors, soyons très clairs. Il y a des domaines où le maire n'a pas tous les pouvoirs. Il y en a d'autres, il l'a, il les a. Donc l'urbanisme, c'est encore un des seuls trucs sur lequel on a la main. D'ailleurs, c'est nous qui faisons les règlements d'urbanisme. D'accord ? Donc, au contraire, on commence, mais c'est tout le problème, en réaction à mettre en place des observatoires de l'habitat. Mais après, moi je suis désolé, ça veut dire qu'on met en place des politiques publiques sans s'assurer de l'efficacité de ces politiques publiques.
Vous avez raison,
Se dire, si j'ai une stratégie sur l'habitat, je mets en place les outils pour mesurer l'efficacité de cette stratégie. Et je reviens sur le sujet du Airbnb, sans stigmatiser, parce que d'ailleurs des plateformes, il n'y a pas que Airbnb aujourd'hui.
Non.
J'appelle ça de la location courte durée.
Touristique, oui.
Et non, justement. Et moi, j'étais dans la même analyse que vous. C'est que dans un territoire comme le nôtre, même si on n'a encore pas, je trouve qu'on n'a pas une proportion du Airbnb trop importante. Mais ça répond à un besoin. C'est-à-dire que vous parliez des étudiants. J'ai des étudiants qui aujourd'hui se ruinent en louant des Airbnb. Parce qu'ils ne trouvent pas une offre adaptée.
Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous.
Ou une offre qui leur permette, donc par exemple un étudiant qui fait des stages toutes les 3 semaines, il n'a pas d'autre solution dans l'Auxerrois que d'aller dans un Airbnb. Donc, excusez-moi, je vais être provocateur, mais merci Airbnb, parce que cet étudiant-là, il ne pourrait même pas venir dans l'Auxerrois faire ses études. Donc nous, c'est à nous plutôt de se dire, ok, je suis d'accord, il faut un certain équilibre, mais ça veut dire aussi qu'il y a un besoin qui n'est pas pourvu. Est-ce que moi, en tant qu'acteur public, je peux y répondre directement ou indirectement, ou, et ça c'est le rôle des pouvoirs publics, de créer l'environnement propice à ce qu'il y ait des projets qui se développent et qui répondent aux besoins de mes habitants. Mmh. Et Airbnb, c'était une des réponses, mais il ne fallait pas que ce soit la seule.
D'accord.
Voilà. C'est pour ça que j'essaye de nuancer, et c'est toujours de... On est toujours dans la réaction. On laisse faire, ça nous échappe, et après, on se dit, il faut qu'on corrige. Le Airbnb, au départ, tout le monde a applaudi. Je peux vous assurer, toutes les villes qui aujourd'hui disent on va limiter le Airbnb, au début, ils l'ont laissé faire. Toutes les villes qui parlent du sourd-tourisme, au début, dans leur stratégie, on dit on va faire du tourisme à fond. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas mesuré... ou suivi l'évolution des conséquences de nos politiques publiques. Je ne dis pas que c'est facile.
Non, mais vous avez raison. Sur le fond, sur l'analyse économique, vous avez absolument raison. Ce manque de vision à moyen terme a créé justement ce mouvement de réaction, puisqu'il y a un effet pendulaire, en fait.
Oui.
On a célébré le Airbnb, puis du jour au lendemain, pas le Airbnb, la location saisonnière, c'est devenu
la bête à abattre.
Mais dès le début, il y avait un problème d'inéquité fiscale, vous l'avez bien vu.
Oui.
Donc, effectivement, il aurait été plus avisé de réformer la fiscalité dès le départ pour équilibrer l'offre que d'attendre la loi Lemeur en décembre.
Pour beaucoup, ça a été un effet d'aubaine.
Absolument. Et un effet d'aubaine, d'ailleurs, comme ça l'est parfois pour la rénovation énergétique ou pour les aides publiques, bien évidemment. J'ai une dernière question.
Compléter, parce que vous avez abordé les effets d'aubaine. Donc, le Airbnb a contribué à la réhabilitation de logements dans des centres-villes historiques.
Et personne ne le conteste, ça.
D'accord ? La loi Malraux, c'est la même chose.
Ben oui.
Et à Auxerre, il y a des lois Malraux. Et s'il y avait
Mais le de Normandie dans l'ancien, c'est pareil.
S'il n'y avait pas des dispositifs fiscaux comme Malraux à Auxerre, il y a des opérations aujourd'hui qui ne se feraient pas. Et j'aurais des biens vacants
Absolument.
100 mètres qui seraient en état de péril.
Absolument.
Donc, d'ailleurs, c'est juste ça, c'est trouver cet équilibre.
Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, aussi, et c'est un sujet dont on va parler également avec les notaires, c'est le sujet des valeurs. Vous avez des valeurs immobilières. Les coûts des travaux sont les mêmes, quelles que soient les valeurs immobilières. Et effectivement, à l'évidence, on n'a pas le même prix pour une très jolie maison à Colombages ou un hôtel particulier à Auxerre qu'on l'a dans le 5e arrondissement de Paris.
À Pan-de-Bois, hein, je rappelle quand même.
Oui, à Pan-de-Bois. Voilà, à Pan-de-Bois. Je me fais corriger en ce moment.
Dernier mot, avant de recevoir Maître
François,
notaire ici même, peut-être un mot quand même, c'est un symbole sur les silos Batardeau. Qu'est-ce que ça représente symboliquement pour ceux qui ne connaissent pas justement la ville d'Auxerre? Je sais que c'est important.
Ah oui, un dossier phare, une arlésienne, parce qu'on a beaucoup d'arlésiennes à Auxerre,
c'est
le fatalisme. Donc,
totem.
Avec les silos, oui, c'était plus qu'une icône. Ce projet-là, c'est qu'on avait à peu près un espace de 17 hectares au pied de la ville historique. Donc, on est carrément dans le cœur historique de la ville d'Auxerre. On touche les boulevards. On est dans la skyline d'Auxerre, dans le prolongement avec toutes ces églises. Donc, on s'est dit, toujours dans cet esprit de dire la transition écologique, c'est une opportunité pour un territoire comme le nôtre. Et on s'est dit, mais quelles conséquences ça pourrait avoir, quelle traduction ça pourrait avoir dans l'aménagement d'une ville comme la nôtre. Et on a trouvé un terrain de jeu de 17 hectares dans lequel on cochait plein de cases, donc des friches industrielles, de la pollution, de l'imperméabilisation, une dégradation du bâti, des biens vacants. Voilà, donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et on a délimité ce périmètre et on s'est donné un challenge, c'est de se dire, on va repenser ce que peut être l'aménagement urbain en tenant compte de la transition écologique avec une ambition, c'est celle d'être autonome en énergie et en énergie décarbonée. Avec une question, par exemple, comment on réhabilite des silos, parce qu'on s'aperçoit que la réhabilitation, ça coûte très cher, mais en bilan carbone, c'est plus intéressant qu'une démolition, une reconstruction. Comment on fait un peu d'histoire architecturale contemporaine, parce que ça fait partie maintenant, les silos du Batardeau, ça fait partie de l'histoire d'Auxerre. Là, elle y est encore plus, puisque c'est une entreprise qui a employé pratiquement 3000 salariés sur Auxerre, qui était leader mondial de la machine à bois, mais il y a maintenant très très longtemps. Donc ça laisse des traces, et donc le citoyen s'est habitué. Donc, il faut garder ces marques de l'histoire de la ville dans le réaménagement de ce quartier avec toutes les contraintes que ça. Donc, c'est l'ambition qu'on a. Il se trouve qu'on a été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Démonstrateur de la ville durable de demain. Donc, c'est déjà une belle reconnaissance pour nous. Je crois qu'au mois de mai... Alors, moi, j'ai pas pu aller au MIPIM. C'est dommage parce qu'en plus, Cannes, c'est plutôt sympa. Par contre, on va aller un peu plus loin. On va aller au Biennale de Venise puisque... Batardeau-Contardoin va être présenté dans le pavillon français. Donc on a dit autant aller encore plus loin et c'est encore mieux. Donc à choisir entre Cannes et Venise, on a choisi. On ira à Venise parce que c'est tout l'enjeu de ce projet-là, c'est de démontrer que c'est possible, qu'il y a un modèle économique parce que vous l'avez rappelé, le coût de l'immobilier c'est un sujet. Et pour nous, c'est un double sujet, c'est-à-dire que le coût de réhabilitation, que ce soit une métropole, une ville moyenne, c'est le même. Par contre, le prix de marché, c'est pas le même. Donc le modèle économique est très dur à trouver. Et donc c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place, de démontrer avec des partenaires que je souhaite citer. Donc c'est le groupe Essor et le groupe Cardinal, parce que c'est des gens avec qui on travaille sur la partie promotion immobilière. Et puis sur la partie énergétique, on travaille avec le groupe Corians aussi, avec lequel on a développé un réseau de chaleur. Parce que je pense que l'autonomie énergétique, on va pouvoir y accéder à travers un réseau de chaleur. Donc on est en train de construire ce partenariat un peu public-privé, pour que demain, on ait un beau quartier au pied de la ville qui intègre les enjeux de la transition écologique, qui permette également de remettre à niveau certains bâtiments historiques, donc de les recycler, donc faire un hôtel ou des logements dans un silo. Je pense que c'est presque une première nationale. En tout cas, il y a des projets en cours, mais il n'y en a aucun qui a été vraiment fait. Même à Bordeaux, on n'a pas réhabilité le silo. On parle de transition énergétique avec du photovoltaïque, de l'hydrogène stationnaire. Donc, il y aura beaucoup d'innovations et d'expérimentations. Et on va végétaliser, renaturer ces espaces, rendre les sols perméables. Et quand on sait qu'on est près de la rivière, C'est vraiment une belle ambition et j'espère que demain, les Auxerrois seront, en tout cas, les premiers retours que j'en ai, c'est plutôt positif, seront très fiers de ce nouveau quartier.
Combien de temps, à peu près, pour achever cette œuvre-là?
Allez, on va dire une dizaine d'années. On est sur le temps long. Il faut l'accepter aussi.
Bien au-delà du mandat.
Et il faut surtout pas vouloir aller trop vite. Au contraire. Mais ça, c'est aussi le rôle de l'élu. Il y a toute cette planification de l'action publique et il faut accepter ce que certains engagent. Ben, c'est peut-être pas ceux qui vont l'inaugurer, mais c'est aussi ça l'intérêt général.
En tout cas, vous avez pris deux partenaires extrêmement intéressants. Effectivement, nos amis le Cardinal à Lyon. Et notre ami David Pouyan pour Essor.
Je pense que si vous avez été à Bayonne, vous avez entendu parler d'eux.
Oui, oui. Mais pas qu'à Bayonne, justement. Non, mais
Bordeaux.
C'est bien, mais d'ailleurs, en plus, vous prenez effectivement à bras le corps. Je pense que c'est des projets à la fois multipolaires, extrêmement complexes quand même à mener, avec ce souci, vous avez raison, hein, monsieur le maire, de trouver la sortie et le modèle économique. Voilà, on a pris un tout petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Voilà, dans quelques instants, nous allons recevoir Maître François, un notaire ici pour nos amis du Conseil national, du Conseil supérieur du notariat et les chambres des notaires régionales que l'on rencontre chaque mois. Je vous propose, monsieur le maire, de rester avec nous. Notre ami notaire, justement, qui va nous parler un petit peu de façon très prosaïque de l'immobilier, de l'habitat, de l'accession à la propriété ici à Auxerre. C'est tout de suite après ça.
Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
Eh bien, rebonjour les amis, si vous prenez le programme en cours. On est à Auxerre, vous êtes les bienvenus, venez à Auxerre. Bon, il n'y a pas que du vin, mais il y a aussi une ville magnifique, il y a beaucoup d'innovations, il y a des projets urbains extraordinaires, et surtout, vous avez un maire flamboyant qui nous écoute avec beaucoup d'attention également, et que on écoute également avec mon ami Olivier Marin, avec beaucoup de passion. Cressant Marot, merci vraiment de nous recevoir et de faire preuve de cet enthousiasme que vous avez pour votre ville avec une véritable ambition et même une ambition qui va bien au-delà du mandat politique, des projets qui se projettent comme ça sur une dizaine d'années. Pour cette séquence, parlons bien, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau un notaire, Maître Francin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il est d'usage que pour la première question posée à un notaire, ce soit notre ami Olivier Marin qui s'y colle.
Alors, j'écoute Olivier.
Bon, alors avec vous, maître, on va faire quand même un tour d'horizon pour ceux qui ne connaissent pas Auxerre, justement, et même l'agglomération, voir l'évolution des prix, des ventes, délivrer des conseils pratiques, quelques chiffres clés pour démarrer. Statistiques donc sur un an à fin décembre 2024, 1540. Comme 1540 euros, ça c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Auxerre.
C'est fou, hein ?
Ce qui correspond à une baisse autour de 10% sur un an pour les appartements. Un volume de vente qui est à la baisse, moins 8% sur un an. Mais avec la combinaison baisse des prix, baisse des taux d'intérêt, est-ce que vous sentez mettre déjà une dynamique de nouveau sur le territoire ?
Alors, je dirais pas une dynamique, je dirais un petit frémissement. Effectivement, on peut guère faire moins bien que l'année dernière, encore que. Et donc, effectivement, la baisse des taux liée à la baisse des prix, même si les prix à Auxerre n'ont jamais été élevés, hein, nous fait penser que effectivement, ça devrait repartir un petit peu. Voilà. Mais ça reste quand même un marché qui est extrêmement tendu.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, justement, Auxerre, quelles sont les spécificités de ce marché immobilier ?
Alors, les spécificités, je vais rebondir un petit peu sur ce que nous a dit monsieur le maire. On est quand même sur une ville moyenne, donc on peut difficilement comparer. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à comparer tout et n'importe quoi. Je veux dire, vous pouvez pas comparer les prix sur une ville comme Auxerre avec les prix sur une ville comme Dijon ou Orléans, pour citer celles qui sont les plus proches.
Bien sûr.
On est on est sur un marché où le prix, bah, vous l'avez donné, hein, en moyenne entre pour les appartements entre 1200 et 1500 euros à peu près du mètre carré, selon le lieu de situation, selon l'état.
Avec des travaux ou sans travaux?
Et selon l'état, effectivement.
Avec travaux. Ouais.
Voilà, si c'est.
Mais
avec...
ça reste quand même, c'est vrai que par comparaison. Ça reste des prix bas.
Ça reste des
prix
bas.
Mais c'est pas comparable, puisqu'en fait, on est, comme le disait le maire très justement, sur une ville à taille humaine, qui a des aspérités très différentes.
Exactement. Évidemment. C'est-à-dire que si on veut comparer, il faut comparer avec une ville à peu près identique.
Mais oui, bien sûr. Et vous avez raison de le dire, parce que souvent, on fait cette erreur. de stigmatiser des villes en disant c'est pas cher. Alors je vous parle pas de Saint-Dizier par exemple, où là carrément on est au-dessous des 900 euros du mètre carré dans certains quartiers, mais c'est pas comparable effectivement, vous avez raison, on devrait comparer sur des villes de taille. D'ailleurs c'est une... Vous nous donnez une idée, je pense que ça mériterait justement d'ingérer ces données-là pour donner cette approche qui est absolument différente que celle des grandes métropoles, parce que ces grandes métropoles dont vous parlez, Orléans, Dijon, où on peut prendre Paris, où je peux prendre Lille par rapport à Roubaix ou Tourcoing, ils aspirent en fait, si vous voulez.
Bien sûr.
Et donc cette tentation de la comparaison est tout à fait délétère hein, pour le territoire.
Et le prix qu'on donne au mètre carré est un prix moyen. Vous parlez de Saint-Dizier, on a des quartiers à Auxerre où le prix des appartements peut se situer aux environs de 900 000 euros du mètre carré.
Ah oui.
Et puis d'autres où vous allez être proche des 2000. Tout dépend effectivement la situation.
Est-ce que le marché locatif est aussi tendu que dans les autres villes de France ?
Alors, j'avais pas conscience du nombre de la proportion d'annonces concernant les logements meublés de courte durée. Moi, l'impression que j'avais, c'était que en locatif, on se portait pas si mal que ça à Auxerre. Pourquoi ? Parce que les prix étant assez bas, le rapport locatif est assez bon. Donc ça se loue.
Quand vous dites rapport locatif, on est à plus de 8% ou à moins de 8% brut?
Ah ben, à certains endroits, on peut être à plus de 8%, oui. Oui.
Ah quand même.
Oui, vous avez des...
Alors quand vous dites certains endroits, où ça?
Ah ben non, mais tout dépend du...
Pour donner des...
Il faut ménager...
Pour ceux qui ne connaissent pas.
Ménageons les susceptibilités.
Vous êtes là pour ça. Mais si vous donnez des bons conseils...
Non, mais parce que tu veux investir à Auxerre.
Parce que vous voulez investir, c'est ça. Si vous avez un logement...
Non, mais maître, c'est pas neutre, parce que ceux qui nous écoutent...
Bien sûr.
Plus de la moitié sont des investisseurs dans les villes de France. Donc, si quand vous dites 8, plus de 8, ou moyenne de 8, voire même entre 5 et 8%, vous restez une ville extrêmement attractive pour la rentabilité locative. C'est important parce qu'on a besoin des petits bailleurs privés.
Si vous pouvez trouver à Auxerre une petite surface, un studio, dans une copropriété qui a, on va dire, 25 ans, 20 ans, il y en a à la sortie d'Auxerre sur la voie romaine, où vous achetez des studios de 30 mètres carrés à 50 000 euros dans un superbe état, que vous allez louer 400 euros par mois, ou 350, entre 350 et 400 euros par mois. Donc vous avez, sur certains biens, un rendement locatif intéressant. D'accord? Après, vous avez d'autres quartiers d'Auxerre, dans des copropriétés beaucoup plus anciennes, où vous avez un rapport locatif qui est moins bon. Mais ça, c'est pareil, ça évoluera dans le temps. Moi,
Est-ce que ça se loue? Vraiment? C'est vrai, parce que Olivier a raison. Il y a un nombre, c'est impressionnant, un nombre d'offres à la location, 52 offres à la location. On se dit, soit il y a un marché, soit il n'y a pas de marché. Mais quand on compare, nous, avec la tension locative des autres villes, on ne trouve carrément pas de location parce qu'il n'y a pas de rotation. Donc on pressent qu'à Auxerre, il y a une vraie tension. On ne trouve pas de logement à la location. Vous avez cette impression ou pas, vous?
Moi, j'ai pas, monsieur le maire. Moi, j'ai monsieur pas cette impression-là.
Est-ce qu'on se loue facilement en location normale?
Vous avez l'air étonné.
Je vais vous donner une petite information. Oui. J'ai été très surpris. On a tous les ans, on accompagne une ou deux opérations de réhabilitation dans le cadre du dispositif Malraux. Et les opérateurs qui montent ces opérations me disent « je n'ai aucun problème de commercialisation ».
Ah oui.
Donc les opérations Malraux à Auxerre, et on va sur le mandat, on va avoir sorti pas loin de, allez, je dirais au moins 200 logements en Malraux. Ils se sont commercialisés relativement vite, voire pour certains, très vite. Donc ça veut dire, et donc moi ça m'a donné une information, parce que il y avait la question de la démographie, la question du logement. Moi ça me dit que voilà, il y a une certaine dynamique. On est en train de recréer cette dynamique, puisque en 2020, aucun promoteur immobilier sur la construction neuve ne se déplaçait. En 2022, j'en ai kidnappé quelques-uns. Ils sont venus parce que je leur ai tendu quelques produits du terroir. Donc ça les a fait venir.
D'accord.
Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur deux opérations en construction neuve et deux autres en réhabilitation. Donc on sent qu'il commence à y avoir une appétence.
Bien sûr.
Notre problème, et maître, moi ça m'intéresse, j'ai un petit problème, c'est que comme il n'y a pas eu d'opération neuve depuis de très nombreuses années...
C'est ça.
On ne connaît pas le prix de marché du neuf à Auxerre.
Eh oui.
Enfin, On a des estimations, mais comme il n'y a pas eu d'opération...
Oui, je dois vous avouer qu'on s'est retrouvé exceptionnellement pour cette 45e étape, exactement dans cette situation. Voilà. Ça n'était jamais arrivé.
Oui.
Ça fait 5 ans qu'on fait les villes de France, et je dois avouer qu'on n'a pas réussi à trouver une métrique au mètre carré dans le 9 ici. C'est fou.
C'est incroyable. Parce que ça fait de nombreuses années.
On est à 170 km de Paris.
Alors comment vous l'expliquez, ça? Comment vous l'expliquez qu'il n'y ait plus d'opération dans le 9 depuis longtemps? Même si vous avez
quitté. Non, mais vous les signez, vous les permis?
Alors, j'en reviens toujours à mon problème de l'attractivité. Hein. Oui. Quand vous êtes dans un déclin démographique, tout se casse la gueule. Hein. Ça, faut être très clair.
D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y en avait et qu'ils sont partis ou il n'y en avait pas du tout?
On avait un taux de vacances dans le centre-ville d'Auxerre. En 2020, on avait 700 logements vacants. 700.
En 2020?
Oui, c'est 700 énorme. Logements vacants. Donc là, dans ces 700, j'ai fait des opérations Malraux.
D'accord.
Oui. Il y a eu probablement, même certains, des réhabilitations Airbnb. Et quand je redis, parce qu'on s'est tout pris dans la figure, la crise du Covid, la crise économique, la crise sanitaire, la crise énergétique et la crise inflationniste, plus un petit truc auquel je crois, moi ça me gêne pas, une RT 2020++, ça faisait que les coûts de réhabilitation, mais je vous dis, là j'ai des opérations Malraux, on travaille avec des promoteurs, on est à pratiquement, sur une opération, 6000 euros du mètre carré. Si on veut faire les choses bien. Et on va le faire. Faut trouver la combine, mais c'est pas clair. Sur le 9, c'est le même sujet. Par contre, et c'est là qu'on commence à voir des opérateurs arriver dans l'Auxerrois, c'est que il y a l'effet de la Loisanne. Donc le foncier va se raréfier. Mmh. Donc il va devenir de plus en plus cher.
Donc, et puis vous avez une démographie qui semble s'arranger.
Oui, mais parce que c'est souhaité. C'est-à-dire on va doubler le nombre d'étudiants. Donc pour doubler le nombre d'étudiants, il faut pouvoir les loger. Pour doubler le nombre d'étudiants, il faut pouvoir les transporter. Pour doubler, augmenter le nombre d'habitants, il faut pouvoir les soigner. Donc tous ces facteurs d'attractivité ou ces facteurs qui vont faire en sorte qu'entre deux villes, vous allez choisir Auxerre plus qu'une autre, ben on est en train de cranter. Donc la santé, l'éducation, le logement, les espaces publics, l'innovation, la transition écologique, la mobilité. Voilà. Donc c'est en train de porter ses fruits. Et ce qui va finir par arriver, donc c'est qu'on va commencer à monter des opérations de construction. Donc il va falloir aider le premier qui va prendre le risque en disant ben, je teste le marché. Et je pense que le test ça sera concluant. Et ensuite, une fois qu'on aura un prix de marché, on saura faire la moulinette à l'envers pour avoir le prix le coût de revient, quoi. Et puis connaître la marge et lancer les opérations.
Laurent Francin, le prix au mètre carré de la location, on a une idée dans l'ancien? On est à combien? On est à moins de 10 euros en moyenne?
On est à moins de 10 euros.
On est à moins de 10 euros.
Enfin, à peu près 10. Mais tout, encore une fois, tout dépend du lieu. Tout dépend du lieu. Si vous êtes dans une copropriété un petit peu ancienne, avec un bilan énergétique qui est pas bon, enfin qui est pas bon, qui est moyen, parce que pas bon normalement.
Quand vous dites moyen, c'est pas G, c'est F ou G.
Non, mais vous pouvez être dans des copropriétés où vous avez un chauffage collectif, donc qui est dans les charges, d'accord. Mmh. Même si vous êtes classé en D et qu'au bout du compte votre propriétaire chaque mois il va vous réclamer 150 euros de charges au titre du chauffage. La charge, elle est là. Je veux dire, le coefficient en D, dans une copropriété où vous avez un chauffage collectif, non. Voilà. Or, on a beaucoup d'anciennes copropriétés qui ont un système de chauffage collectif. D'accord? Donc, dans ces copropriétés-là, vous allez louer moins cher. Par contre, dans une copropriété un peu plus récente, bien isolée, avec un bon coefficient énergétique, vous allez louer au mètre carré un petit peu plus cher. Je rebondis sur ce que disait monsieur le maire. Si les promoteurs n'ont pas de difficultés pour commercialiser leur programme en Malraux ou en autre, c'est qu'il y a un rapport locatif qui ne doit pas être si mauvais que ça.
Bien sûr. Un mot de la maison quand même. 140 000 euros prix médian d'une maison ancienne à Auxerre. C'est moins 12% sur un an, selon vos statistiques. Mais sur les 5 dernières années, la hausse a été de 3,7% à l'échelle de l'agglomération. Un mot quand même, nous expliquer les différents types de maisons à Auxerre.
Alors, à Auxerre, vous avez évidemment les maisons du centre-ville, les vieilles maisons du centre-ville, voire les très belles maisons du centre-ville. Et puis, vous avez les maisons qui sont plus en périphérie des boulevards. Et encore une fois, on est sur des moyennes. Et encore une fois, je vais vous redire la même chose, tout dépend de l'endroit où vous êtes.
Alors, vous avez eu un record notamment,
c'est voilà, ça ? Voilà, moi, l'année dernière, on a vendu une maison 730 000 euros à Auxerre. Donc, on peut vendre des gros prix, mais c'est pas la norme. La norme, effectivement, c'est...
C'est carrément un hôtel particulier à ce prix-là, non ?
Pas loin.
Oui.
C'est ça.
Oui, c'est une maison maître.
La norme, c'est pour le pavillon standard de 80-120 mètres carrés, vous allez être entre 140 et 180 000 euros selon l'endroit où vous vous trouvez. D'accord ? Après, vous parlez un petit peu de la périphérie d'Auxerre. Donc
ça donne envie d'aller vivre.
Où là, on est quasiment que sur du pavillonnaire, d'accord, où vous pouvez avoir des écarts de prix. Encore une fois, tout dépend de l'endroit où vous vous situez. Vous serez un peu plus cher dans une commune de l'ouest d'Auxerre.
Lesquelles? Donnez les noms.
Alors, vous serez un peu plus cher à Saint-Georges-sur-Baulche que à Chevannes.
Très belle ville, ça.
Parce que c'est chic.
Mais Chevannes reste un très joli village.
D'accord. Voilà. Dernière question, rapidement.
Oui, en cette période d'incertitude aussi économique, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier, maître ?
Alors, quand on souhaite vendre, ne pas se presser. D'accord. Voilà. Attentif, évidemment, à la performance énergétique. Plus votre performance énergétique est bonne, mieux vous vendrez. Voilà. Et puis surtout, et ça c'est important, avoir au moment où on présente son bien fait établir tous les diagnostics, voilà, que sont évidemment tous les diagnostics obligatoires qu'on connaît, performance énergétique, amiante, etc. Également l'assainissement, très important, très très important. Si vous avez une maison avec un assainissement qui est non conforme, et ça peut être une broutille, ça peut être une gouttière qui part dans les eaux usées. Ça peut être quelque chose de plus important, vos eaux usées qui partent dans les eaux pluviales. Mais lorsque vous ne l'avez pas fait avant de vendre et que vous présentez un bien à la vente avec un prix de, et que votre acquéreur vous dit j'achète et qu'il apprend après que son assainissement n'est pas conforme et qu'il va avoir un an pour le remettre en conformité et que ça va lui coûter X euros. Voilà. Donc, bien préparer son dossier. D'accord? En amont. On a tous les outils pour faire ça. D'accord? Et puis, donc ça c'est pour le vendeur,
pour essayer
d'en tirer le meilleur prix possible. Et puis pour l'acheteur, bien se faire communiquer tous ces documents qui sont extrêmement importants. Ne pas hésiter à consulter plusieurs banques en cette période de... Alors là, on est plutôt dans une période de...
De reconquête.
De reconquête, de petite baisse des taux. Les banques qui voulaient surtout pas voir de nouveaux clients, emprunteurs, maintenant...
Redeviennent
un peu plus souples.
Ils font une sacrée concurrence.
Voilà. Et puis, prendre le temps, toujours pareil, prendre le temps. Voilà.
Très bien.
Bien choisir son quartier, mais le quartier... Ça, c'est autre chose que j'ai appris dans mon métier, c'est que un quartier qui, il y a 20 ans, n'était pas très prisé, peut devenir très prisé dans 10 ans. Et vice-versa.
Tardons, tardons.
On l'a vu à Paris avec le quartier de la rue de la Roquette,
c'est valable,
sur la place de la Bastille, où personne ne voulait aller quand je suis arrivé à Paris, il y a 37 ans, et que là, je peux vous dire que c'est un peu l'embellie. Voilà. Un grand merci à vous,
merci
Laurent
François.
Notaire. Merci. On va devoir se quitter, bien évidemment. Mais avant cela, on va parler d'un sujet majeur avec vous, monsieur le maire. C'est la rénovation énergétique. On va parler de ce sujet dans la prochaine séquence avec nos amis d'Elio qui seront sur le plateau. C'est tout de suite après ça.
Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
Voilà, vous êtes à Auxerre, vous êtes dans le grand rendez-vous des villes de France que nous faisons avec notre ami Olivier Marin. Ce sont les clés de la ville. On a posé nos valises ici à Auxerre. Si vous récupérez l'émission en cours, vous l'écoutez en podcast. Je rappelle que vous l'écoutez en son et voir également les images qui vous permettra de contempler notre ami Olivier Marin. Ça va, Olivier ?
Sylvain, très bien, très, très bien.
Voilà, bien mieux avec nos amis d'Elio. Et sur le plateau, on a l'un des spécialistes en France de la rénovation énergétique, et pour cause, il est le directeur des affaires publiques de Elio, le bien nommé, c'est Pierre-Marie Perrin.
Bonjour Sylvain, bonjour Olivier.
Comment
bonjour
ça va, Pierre-Marie ?
Ça va très bien, ravi de vous retrouver.
Voilà un grand professionnel de l'énergie est avec nous sur le plateau, c'est presque un mouvement émouvant. Voilà.
Et comme toujours, donc on va évoquer bien sûr la rénovation énergétique à l'échelle nationale, et puis on va rentrer dans le vif du sujet à l'échelle plus locale. Plus que jamais, quand on parle de rénovation énergétique, on a besoin de pédagogie, de transparence, de confiance.
La rénovation énergétique, c'est pas qu'une contrainte réglementaire, hein. C'est à la fois réduire les dépenses d'énergie, c'est contribuer aux défis climatiques, c'est s'impliquer dans la transition, et puis c'est valoriser son patrimoine immobilier. Donc,
et comme dirait Monsieur le maire Clément Cresson-Marot, c'est une formidable opportunité.
Et c'est une formidable opportunité pour tous, hein, et puis pour les générations futures. Alors, comme d'habitude, Pierre-Marie, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dernières actualités réglementaires ? Il y en a beaucoup.
Il y en a plusieurs, effectivement. Le monde de la rénovation énergétique et surtout la stabilité réglementaire est remise un peu en cause régulièrement. Mais là, il se trouve que depuis un an et demi, c'est de plus en plus stable. Donc, on s'en félicite. Il y a une chose qui a été annoncée ce matin par la ministre Valérie Létard, ministre du Logement. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Mais il y a eu des annonces sur les DPE, diagnostics de performance énergétique, qui sont très importants, notamment parce qu'ils viennent essayer de mettre en place une meilleure fiabilité de ces diagnostics. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est la première étape qui va permettre d'établir un diagnostic, mais après de pouvoir préconiser des scénarios de travaux et d'obtenir une performance énergétique meilleure pour ce logement. Donc la ministre en a annoncé 10 mesures de 3 ordres. La première, c'est la fiabilité. Donc on va mettre à disposition des outils, et notamment l'intelligence artificielle, pour pouvoir permettre de fiabiliser ces diagnostics. Il va y avoir plus de contrôle. Aujourd'hui, c'est à peu près 3000 qui sont diligentés en France. On va monter à 10 000, donc c'est très important. Et puis, la ministre a annoncé aussi des choses très intéressantes sur la création potentielle d'un ordre des diagnostiqueurs, comme il y a un ordre des médecins, comme il y a un ordre des avocats. Et ça, toujours dans la volonté de fiabiliser ce DPE.
Parce qu'il y a eu beaucoup de fraudes.
Donc, on est toujours un petit peu à la limite.
Mais oui.
On va minorer les DPE pour pouvoir avoir une...
Les DPE de complaisance. DPE. Il y en a eu 1 300 000 l'an dernier.
Exactement. Et puis surtout pouvoir bénéficier d'aides, parce que en fait, en filigrane de tout ça, c'est lorsque vous avez un DPE très bas, ben vous pouvez obtenir des aides plus importantes. Et plus vous faites de sous de classe, plus vous avez des aides publiques et privées importantes. Donc là, ça va permettre de fiabiliser ce DPE. Et puis on va accentuer sur la formation, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de véritable formation pour les diagnostiqueurs, et c'est très important. Donc la formation et puis la lutte contre la fraude. Vous allez avoir des contrôles qui vont être diligentés sur site. On va regarder les DPE et puis surtout on va contrôler la profession des diagnostiqueurs. Et ça, je pense que c'est très important et très intéressant de le signaler.
Du côté de MaPrimeRénov', quoi de neuf ?
Alors MaPrimeRénov', on sait qu'il y a eu un temps de latence parce qu'il n'y avait pas eu de vote du budget, enfin que le vote du budget a été décalé. Donc l'octroi et en tout cas l'étude des dossiers de MaPrimeRénov' ont pris du retard et depuis début mars, ça commence à réaugmenter, on commence à réinstruire les dossiers, à réoctroyer des primes. Et aujourd'hui, le budget de l'ANA pour 2025, il est de 3,4 milliards, donc ce qui reste très important. Et donc les Français sont intimement... en tout cas aider et inciter à réaliser des travaux dans leur maison ou dans leur copropriété. Et puis, on sait qu'il y a plein d'aides qui sont disponibles, et des aides qui ne vont pas que pour le particulier, mais qui vont pour les collectivités territoriales. Le fonds vert qui a été diminué, effectivement, mais vous avez des aides privées à travers les certificats d'économie d'énergie, et on sait que le gouvernement a mis en délibéré la PPE. Donc, qu'est-ce que la PPE ? C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va fixer les grands enjeux et les grandes décisions qui seront prises pour l'énergie à horizon 2030 et 2050. Et aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie, par exemple, qui étaient aux alentours de 6 milliards d'euros par an, c'était privé payé par les fournisseurs d'énergie, on va être en 2026 à quasiment 10 milliards chaque année pendant 4 ans.
Comment Elio accompagne justement les propriétaires désireux de faire justement des travaux de rénovation énergétique ?
Alors nous, on accompagne, comme vous le disiez, l'ensemble des consommateurs d'énergie. Je les ai rappelés, ça peut être des industriels, ça peut être des particuliers, ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être des entreprises. Mais pour les particuliers, on va réaliser un diagnostic, un audit énergétique. Une fois qu'on a réalisé cet audit énergétique, on va préconiser des scénarios de travaux. Donc on va dire, en fonction de l'état de votre logement, si vous réalisez l'isolation, par exemple, de votre logement, l'isolation thermique par l'extérieur, si vous changez votre système de chauffage, si vous mettez une VMC, par exemple, vous allez pouvoir obtenir tant d'aides, publiques et privées, et on va les accompagner à aller chercher ces aides, à monter les dossiers, parce qu'aujourd'hui, il y a une crainte des Français, il y a une crainte du citoyen de se dire, aujourd'hui, c'est très compliqué. On est dans un boulgi-boulga d'aide, il y en a beaucoup, on ne sait pas sur qui on tombe, et ça c'est très important de se dire qu'il faut avoir des acteurs qui sont fiables. Donc soit on passe par un acteur public, on passe par France Rénov', qui va être la porte d'entrée, qui va accompagner les ménages, mais également des sociétés comme la nôtre, qui vont vous accompagner de l'audit jusqu'à la réalisation des travaux et jusqu'à l'obtention des aides, et c'est ça le principal.
Alors, on va passer maintenant d'abord de l'échelle locale. Est-ce que vous pouvez nous dresser l'état des lieux du parc de logements à Auxerre?
Alors, le parc de logements, déjà, quand on compare avec d'autres villes de France, et le long de notre parcours qu'on a fait ensemble, on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus d'appartements dans les villes qu'on traversait. Et aujourd'hui, à Auxerre, on se rend compte qu'il y a quasiment 35% de maisons. Donc c'est beaucoup, mais ce qui explique aussi le fait que les DPE à Auxerre et les passoires énergétiques sont assez nombreuses, parce qu'il y a plus de maisons et parce qu'on est aussi dans un, vous le disiez tout à l'heure monsieur le maire, dans une ville historique, donc avec des logements plus anciens. Mais c'est pas catastrophique non plus.
Assez nombreuses, de quel ordre?
On a les proportions?
On est à 14% en F et G. 14, presque 15%.
Ah, quand même.
D'accord. C'est une moyenne haute, mais c'est pas non plus catastrophique. En revanche, quand on additionne les D, les E et les E, les F et les G, on est aux alentours de 36%. Donc, ce qui reste quand même important, mais il y a du travail à faire et je sais que la collectivité s'y emploie et s'engage à mettre des dispositifs innovants et des accompagnements également financiers pour abonder les aides publiques d'État.
Lesquelles typiquement, monsieur le maire?
Les aides locales se cumulent.
Hein. Exactement.
Oui, alors je voudrais quand même dire une petite particularité dans Lyon, puisqu'on a une association qui s'appelle la DIL, qui sert de guichet unique justement pour accompagner ces particuliers dans le parcours du combattant, du montage de dossiers, surtout maintenant pour la prime Rénov', puisque c'est un...
Agence départementale d'information sur le logement.
Tout à fait, et jusqu'à encore l'an dernier, c'était un cofinancement de l'État, du département, de la région Bourgogne-Franche-Comté et des collectivités. Et donc cette année, la région Bourgogne-Franche-Comté s'est retirée de cette association, donc ça l'a mis en péril. Et donc il y a des intercommunalités qui sont montées au créneau et qui ont fait l'effort financier, dont l'agglomération auxerroise, pour garder cette association et permettre d'assurer ce service aux habitants, puisque ça va permettre pour certains habitants de travailler sur leur logement, qui pour certains sont des passoires énergétiques. Ça va permettre, parce que ce sont souvent des travaux qui sont faits par des entreprises d'artisanat locales, donc ça va contribuer à l'économie locale, et ça permet aussi, nous, de piloter. Donc on a un document qui s'appelle le plan local de l'habitat, donc qui justement définit la stratégie et permet de faire le point sur la conséquence de toutes les politiques publiques liées au logement que l'on met en œuvre, donc que ce soit sur du locatif, mais également sur les bailleurs privés. Et donc, dans ce plan local, il y a des fiches actions. Et donc, on a mis en place une fiche action qui accompagne. Donc, sur la partie diagnostic, donc c'est soumis à conditions de ressources, mais on prend en charge 100% du diagnostic. Et ensuite, sur la partie travaux, toujours soumis à des conditions de ressources, on vient compléter les dispositifs de l'État. Donc, l'agglomération subventionne des opérations pour des familles qui ont des budgets assez restreints pour justement décarboner leur système de chauffage, améliorer leur performance énergétique du bâtiment et donc quelque part améliorer aussi leur pouvoir d'achat. Je peux vous assurer que c'est quand même important. On va un peu plus loin puisqu'on a la chance d'avoir un réseau de chauffage biomasse à Auxerre. Ça concerne principalement le collectif parce que le coût de raccordement sur un particulier est trop cher. Mais en tout cas, ça permet aussi, que ce soit pour des logements collectifs publics ou privés, de permettre ce raccordement à ce réseau de chaleur biomasse qui, à terme, va être complètement décarboné puisqu'on va l'alimenter en biogaz via une unité de méthanisation qui fonctionnera avec nos biodéchets. Donc là, on aura vraiment fait le cercle clompé de ce que pourrait être non pas de l'économie circulaire, mais de l'énergie circulaire.
Pas mal. On va la noter.
Alors, comme à chaque fois, Pierre-Marie, on va voir deux exemples, deux cas concrets, justement, de rénovation énergétique. On va voir de quelles lettres on va passer, de combien d'économies on va réaliser. Premier cas concret, rénovation globale d'une copropriété à Auxerre. Trois bâtiments de 82 logements.
Oui, je répète encore une fois, je le radote à chaque fois, ce sont des vrais cas pratiques qui ont été réalisés, hein, pour le rappeler.
Exactement. Alors là, dans ce cas pratique, on passe d'une classe D à C, donc c'était déjà pas trop mal classé. On a un gain énergétique de 37%, et sur un montant de travaux d'un million, quasiment 1,3 million de travaux, on arrive à obtenir 442 845 euros d'aide. Ça fait un tiers quand même des travaux qui sont pris en charge par les aides, avec MaPrimeRénov copropriété et les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est-à-dire que MaPrimeRénov copro, c'est quasiment 380 000 euros et 60 000 euros de certificats d'économie d'énergie, avec un reste à charge de 800 000 euros, donc ce qui est quand même important, et c'est un reste à charge qui n'est pas négligeable et qui n'est pas neutre pour les copropriétaires, mais que l'on peut financer soit par d'autres aides, d'autres financements, mais également par les banques qui sont en capacité de donner ou en tout cas d'octroyer des prêts à taux zéro pour les copropriétés.
Très bien. Deuxième cas concret, une rénovation d'ampleur d'une maison individuelle à Auxerre. Et là, c'est une maison de 198 mètres carrés habitable.
Exactement. Et là, je voulais prendre cet exemple parce que aujourd'hui, les ménages roses, donc les ménages roses, c'est une classification qui est faite par l'ANA. Donc, c'est les ménages qui sont les un peu plus aisés dans les catégories de l'ANA, ont le droit à moins d'aide qu'ils n'en avaient droit en 2024. Et donc aujourd'hui, pour cette maison de 198 mètres carrés, on réalise des travaux d'isolation des murs par l'intérieur, des combles. On change le système de chauffage en mettant une chaudière à granulés et en mettant un insert bois en appoint. Et il se trouve que sur des travaux de 73 000 euros, on arrive à financer 22 000 euros, ce qui est moins que d'habitude. D'habitude, oui. On réussissait quasiment à obtenir 50% du coût des travaux apportés par les aides. Et ça s'explique parce que l'ANA choisit et a fait le choix d'accompagner surtout les ménages les plus modestes dans leur rénovation dite d'ampleur.
Bien sûr. Il faut savoir d'ailleurs que les aides, il y a un code couleur par niveau de capacité sur les conditions. Et c'est vrai que les très modestes, vous voyez, modestes et très modestes, sont beaucoup plus aidés et c'est logique.
C'est logique, effectivement, mais il faut quand même nuancer aussi, parce que les ménages qui ont un petit peu plus de pouvoir d'achat, c'est eux qui actionnent le plus facilement les aides et qui engagent les travaux. Et aujourd'hui, les ménages les plus modestes sont difficiles à aller chercher dans les territoires, même s'il y a des services, notamment des services sociaux, des services d'accompagnement public qui vont aller les identifier, mais c'est plus difficile et on sait que l'acte d'engager des travaux est plus réalisé par cette classification et par ces ménages roses, donc il faut pas non plus abandonner les ménages qui sont, alors là on dit plus aisés, mais c'est,
mais oui, bien sûr,
c'est pas forcément non plus très aisé.
Eh bien, merci pour ces bons conseils. Merci.
Alors, vous restez avec nous, bien évidemment, mon cher Pierre-Marie, puisqu'on va en profiter pour goûter le chablis du coin. Hein, ça peut être sympa. Et l'heure, bien sûr, de nous quitter.
Il y a les côtes d'Auxerre.
C'est avec, voilà, j'insiste, hein, voilà. Il est l'heure de nous quitter avant de vous laisser la parole, Cressant Marot, maire d'Auxerre. Je voudrais qu'on fasse un peu de pub en ce qui vous concerne. Auxerre Impérial, l'événement Napoléon qui aura lieu du 21 au 23 mars. Il est fait avec Julien Jouvet, qui est conseiller municipal, qui est historien de formation. Je pense qu'il est même dans l'Assemblée, il est parmi nous, avec votre première adjointe. Et vous avez des speakers de renom, puisque vous avez le fameux Jean Tullard qui vient, vous avez David Chantran du souvenir napoléonien, et vous avez également et surtout Thierry Lenz, qui est professeur d'histoire à l'ICES, à La Roche-sur-Yon, qui est le directeur général d'ailleurs de la Fondation. Juste pour mémoire, pourquoi Auxerre? Parce qu'effectivement, rappelez-vous, Louis XVIII donc remonte sur le trône, et les maréchaux d'Empire voilà retournent un peu leur veste, et on a le fameux maréchal Ney qui vient devant Louis XVIII et qui lui dit: Sire, je vous ramènerai l'usurpateur dans une cage de fer. Et quand il le retrouve effectivement pas très loin d'ici à Auxerre, il descend de cheval, met un genou à terre, et voilà, et l'histoire fait que le maréchal Ney rejoint les colonnes de l'Empire. Il faut savoir que c'est à la même époque que Napoléon s'avance, je crois, je parle en présence de Monsieur Jouvet qui est dans la salle, il dit, voilà, où il ouvre les bras devant les hussards, devant les soldats, et c'était une belle histoire, une très belle histoire, voilà.
On a également le maréchal Davout, hein.
Voilà. C'est sur le site de la mairie aussi, également.
Tout à fait.
On peut venir, voilà. C'est à l'occasion du 210e anniversaire de la rencontre entre Napoléon Ier et le maréchal Ney à Auxerre. Et je pense que je vais, voilà, peut-être faire un petit tour pour voilà, ça peut être extrêmement simple.
Si vous venez, Sylvain, il y aura du Chablis.
Voilà, voilà. Je vais passer pour un... Mais vous avez raison. Voilà. Merci en tout cas. Le mois prochain, Olivier, nous sommes...
Le 24 avril, nous serons reçus par le maire de Dax, monsieur voilà. Julien Dubois.
Voilà, on va aller dans le sud-ouest, cher notre cher Darigo, qui aime beaucoup le sud-ouest, justement, et notamment à Dax. Il est d'usage, mon cher Cresson Marot. Et encore une fois, je tiens à, au nom de la rédaction du Figaro Immobilier, de la rédaction de Radio Immo, de toutes les équipes qui conçoivent cette émission, vous remercier très chaleureusement. Et également l'ensemble de vos équipes, de l'accueil, de la gentillesse qu'ils ont eue à nous accueillir. Et il est de tradition également pour, de conclure cette émission de Clé de la Ville avec la parole du maire. C'est à vous.
Merci Sylvain. Donc vraiment vous remercier d'être venu à Auxerre parce que ben on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour ces villes à taille humaine et en tout cas Auxerre a cette ambition de rendre compatible à la fois la transition écologique mais également l'attractivité et la redynamisation d'une ville à taille humaine comme la nôtre et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous avons un slogan qui dit transformons l'Auxerrois et en tout cas c'est ce que nous souhaitons faire avec tous les investisseurs potentiels qui voudront s'intéresser à une ville authentique comme la nôtre, chargée d'histoire, mais aussi tournée vers l'innovation et le futur. Merci en tout
beaucoup.
Cas.
Applaudissements pour Cresson Marot. Et merci. Rendez-vous le mois prochain à Dax pour la prochaine étape, la 46e étape des Clés de la Ville avec mon ami Olivier Marin et l'ensemble de mes équipes. D'ici là, prenez soin de vous, le soleil est de retour et venez ici à Auxerre, pas uniquement boire du Chablis, mais aussi découvrir sur les quais de Lyon cette très très jolie ville du patrimoine français. À très vite.
Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.